Bonjour, chers frères et sœurs, vous allez bien? On veut chers amis, on est heureux d'être ensemble. Merci au groupe de nous avoir conduits dans ce chant. C'est une grâce de voir l'Église chanter de nouvelles langues. C'est une promesse de l'Éternel, nous parlerons de nouvelles langues. Pour moi, c'est bien de voir les Alsaciens parler de langues là. C'est une grâce de Dieu, c'est formidable. On ne fait pas encore mieux le créole des Antilles, mais ça ne va pas tarder. Voilà, quand le Saint-Esprit parle toutes les langues de la parole de Dieu, c'est une bénédiction et une joie d'être ensemble pour chercher la face du Seigneur. Et je suis heureux de ce que déjà dans ce qui a été apporté, dans ce qui a été chanté, il y a déjà quelques versets, quelques paroles que je voulais voir avec vous. Et nous avons chanté sur le cœur qui dit. Même si les océans se défendent, je les traverserai avec toi. Alors, je ne sais pas si vous avez réalisé ce que vous avez chanté. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous retrouver en pleine tempête, en plein ouragan, en plein cyclone. Nous qui venons des îles, on a déjà vécu cela, des vents à 200, 250 km/h. Et là, je pense qu'on a de gros soucis. À ce moment-là, on n'est pas tranquille. Quelque chose qui nous prend aux tripes. Je me souviens quand une fois on était en vacances, retourné en vacances en Martinique, et ma fille qui était encore plus jeune à l'époque, on était justement traversant un cyclone qui passait sur l'île. Et à un certain moment, ma fille m'a dit: mais qu'est-ce qu'on entend là? Il y a 3 ou 4 km, et je lui ai dit: mais c'est simplement le roulement de la mer. Et ça m'a permis de. De voir avec vous cette parole de l'Évangile de Marc, du chapitre 4, verset 35, qui est un texte que l'on connaît bien et qui nous dit ceci, et c'est un peu le thème de mon message en ce matin: résister à la tempête en s'appuyant sur la certitude de la parole de Dieu. Dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4, verset 35, il nous dit que le même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé les foules, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec eux. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne te préoccupe pas du fait que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Le vent cessa et il lui amena calme. Et il leur dit: mais pourquoi avez-vous une peur? Comment n'avez-vous pas le foi? Et ils furent tous saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Vous savez que ce n'est pas facile quand la tempête souffre. Il va nous arriver en tant que chrétien, en tant qu'église, que la tempête, à un moment ou à un autre, souffle dans notre vie spirituelle. Et ce qui m'a souvent frappé quand la tempête passe dans les villes comme cela, et quand il y a de grands dangers pour la population, eh bien les autorités nous conseillent d'aller dans des endroits beaucoup plus sûrs, d'abandonner nos maisons et d'aller dans des endroits beaucoup plus sûrs. Et souvent, les anciens, les jeunes, eh bien, ils restent dans leur maison. Ils disent: non, je ne partirai pas, je resterai. Et c'est quelque chose qui m'avait toujours surpris. Et là, on constate et on voit, en supposant qu'ils ont raison, que ces hommes-là, ces hommes et ces femmes-là, avaient des certitudes sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer pour dire que je sais que ma maison résistera, même si la tempête. Et ça, c'est cela, chers amis, si un jour la tempête devait passer dans notre vie, eh bien, il est bon d'avoir des certitudes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Et il y a plusieurs certitudes que je voudrais voir avec vous en s'appuyant sur la Bible, qui est la parole de Dieu, et la Bible aussi qui est la parole des certitudes. La première certitude, c'est la certitude de la vie éternelle. Dans 1 Jean, au chapitre 5 et au verset 13, il vous dit: je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. L'assurance de la vie éternelle, c'est l'une des premières certitudes du n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean a écrit cette épître pour renforcer la foi et pour renforcer la certitude des croyants sur cet aspect fondamental de la vie spirituelle. Parce que quand il a écrit cette épître-là, il l'a adressé à une église qui traversait des temps difficiles, une église qui était troublée par certains événements. Certains avaient abandonné l'église, et ceux qui étaient restés fidèles avaient besoin d'être rassurés, d'être encouragés. Et cette certitude, elle est mise en valeur. Vous lisez encore ce texte de 1 Jean 5, verset 13, et entre le verset 13 et le verset 21, et bien vous verrez que cette certitude est mise en valeur par plusieurs fois l'emploi du verbe savoir. Et savoir signifie connaître. Connaître. Et en employant le mot, le verbe savoir, il voulait leur rappeler ce qu'ils savaient déjà sur la vie éternelle. Et par là même, éviter le doute, empêcher le doute, et bien de s'installer dans leur cœur et dans leur vie. La vie éternelle, nous dit la Bible, c'est de connaître Dieu et de connaître Jésus-Christ par une relation personnelle. Et la vie éternelle, elle est à la fois actuelle, articulation que nous avons avec le Seigneur, elle est actuelle par le fait que nous sommes sur cette terre, nous sommes sauvés, nous marchons sur cette terre, mais nous sommes sauvés. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Nous sommes sur cette terre, mais nous sommes déjà sauvés. Elle est actuelle, mais la vie éternelle, c'est aussi également une assurance de vivre là-haut avec notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Et la vie éternelle, eh bien, on l'a entendu tout à l'heure, dans le premier don spirituel qui a été apporté. La vie éternelle, le Seigneur appelle quelqu'un qui est là, qui vient, qui sait que c'est le Seigneur, que Jésus-Christ est la vérité. Le Seigneur appelle à s'engager. Pourquoi ne t'engages-tu pas alors que depuis longtemps, depuis plusieurs temps, tu suis, tu connais, tu sais que je suis le Sauveur, et tu ne t'engages pas, tu te manques cette certitude-là au fond de ton cœur. Et le Seigneur t'invite, en ce matin, à lui donner ta vie. Le Seigneur t'invite en ce matin, toi qui au fond de toi, sais que s'il revient demain, tu es pardonné. Et bien, le Seigneur t'invite à lui donner sa vie. Et frères et sœurs, chers amis, si la tempête vient à souffler, et si vous avez au fond de vos cœurs, au fond de vos vies, ancré dans votre cœur la certitude de la vie éternelle, et bien, nous pouvons traverser la tempête. Nous pouvons traverser la difficulté. La deuxième certitude, c'est la certitude de l'exaucement de la prière. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et dans ce verset-là, nous avons trois secrets qui vont nous aider à vivre une vie de prière riche et une vie de prière bénie. Vous savez, souvent, nous, chrétiens, à un certain moment, nous avançons dans notre vie spirituelle. Et notre vie de prière devient comme une vie de routine. Tout simplement parce que nous demandons des choses et nous voyons que nous ne recevons pas. Et là, on commence à douter. Vendredi soir, avec mon groupe de maison, nous avons passé une nuit dans la prière entre 22h et 6h du matin, c'est ce que nous faisons Dieu. Avec cette pensée-là, avec cette pensée directrice, de dire, Seigneur, apprends-nous à prier, comme toi tu pries. Et de ce verset-là, nous avons trois secrets qui vont nous aider à vivre une vie de prière riche, une vie de prière bénie. Le premier secret, c'est l'assurance, la certitude. Nous avons auprès de lui cette assurance, c'est-à-dire la certitude, la confiance absolue et la garantie que Dieu répond aux chrétiens lorsqu'il s'approche du trône de la grâce. Et cela nous est confirmé dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance. Avec assurance, c'est-à-dire sans douter. Que peut espérer le chrétien qui s'approche de Dieu rongé par le doute? que peut inspirer le chrétien qui s'approche de Dieu, rongé par la crainte, par l'angoisse. Il ne peut rien espérer. Dans la définition de la foi dans le livre des Hébreux, chapitre 11, il nous est dit que la foi, c'est une ferme assurance. Et Jacques nous enseigne que quand nous demandons, nous devons demander avec foi et nous devons demander sans douter. Parce que si vous doutez, quand vous priez, eh bien vous êtes semblable à la même barque dans laquelle étaient les disciples et qui étaient emportés par le flot de la mer. C'est-à-dire qu'il manque de stabilité, qu'il est agité d'un côté et de l'autre. Nous devons donc prier avec assurance. C'est le premier secret. Le deuxième secret, c'est de prier selon la volonté de Dieu. Nous avons cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, c'est là la clé d'une prière exaucée. Prier selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire prier en accord avec ce que Dieu désire. C'est-à-dire chercher au travers de la prière à satisfaire non pas mes propres désirs, mais à satisfaire le désir de mon Dieu. Jean 14, verset 13, tout ce que vous demanderez au moment, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose au moment, je le ferai, nous dit Jésus-Christ. Et ce n'est pas simplement demander quelque chose, prier selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas simplement dire à la fin de notre prière, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Ce n'est pas seulement cela. Mais c'est chercher à glorifier Dieu au travers de Jésus, par une vie de soumission, une vie d'obéissance, par une vie où je fais tout pour honorer le nom de mon Sauveur et de mon Seigneur. Et le meilleur exemple, c'est la résurrection de Lazare. Quand les deux sœurs ont appelé Jésus-Christ et qu'il n'est pas venu, il a continué son chemin, elles ont semblé être déçues. Mais c'était pas le plan de Dieu de guérir Lazare. Le plan de Dieu, c'était de ressusciter Lazare. C'est pour cela que Jésus a agi, même si son comportement semblait un peu douteux. Mais Jésus a agi selon la volonté de Dieu. Et on a vu le résultat. La gloire est sortie du tombeau et il est ressuscité. Et puis la troisième chose, si nous prions selon sa volonté, ensuite il nous dit qu'il nous écoute. Il nous écoute. Et frères et sœurs, Dieu entend toujours la prière de ses enfants. Même si sa réponse n'est pas du forcément qu'on espère, même si sa réponse tarde, mais il écoute toujours la prière de ses enfants. L'histoire du psaume 34 qui nous dit quand le juste crie, quand le malheureux crie, eh bien l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. De toutes ses détresses. La troisième certitude sur laquelle nous pouvons appuyer notre vie spirituelle quand nous traversons la tempête, c'est la certitude de la victoire. La certitude de la victoire. Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs pour celui qui nous a élus. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs pour celui qui nous a élus. Et quand nous lisons un peu plus loin le verset 35, nous découvrons toute une série de choses d'ordre spirituel, humain, matériel, qui nous montre que durant la marche sur la terre, le chrétien va traverser un moment ou un autre des temps de souffrance. Il dit qu'il ne fut pas fait. Est-ce la tribulation, est-ce l'angoisse, est-ce l'humilité, est-ce la peur, est-ce la persécution? Toutes ces choses qui nous montrent qu'à un moment ou un autre, nous aurons traversé des temps de souffrance. Et ces choses-là, si elles viennent à frapper un chrétien dont la vie spirituelle n'est pas solidement ancrée dans la personne du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, alors à un certain moment, eh bien, il tombera. À un certain moment, eh bien, il y aura la peur qui s'installera, l'angoisse qui s'installera, le doute qui s'installera, et peut-être même la chute. Mais bénissons Dieu, qui est à travers de ce verset 37, dit à son peuple en ce matin, qu'il a la certitude de la victoire. En effet, ce verset nous dit, puisque nous sommes vainqueurs, puisque nous sommes vainqueurs, mais il va plus loin encore. Il dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Plus que vainqueurs. Et c'est ce petit mot-là, plus, qui fait la différence. Plus que vainqueurs. Nous avons la certitude de la victoire. si on prend l'exemple, pour bien comprendre, vous avez deux personnes qui cuisinent.
Vous savez que j'aime ça, hein? Je ne suis pas le seul.
C'est bon, ça tu sais?
Ah, d'accord.
Deux personnes qui cuisinent. Il y en a un qui fait un bon repas, et il y en a un qui fait un excellent repas. La différence, elle est là. La différence, elle est dans l'excellence, parce que celui qui a fait l'excellent repas, même si c'est le même repas, mais il ajoutera une petite touche, quelque chose de secret qu'il connaît, que quelqu'un peut-être lui a transmis et qu'il n'a jamais dit qu'il avait fait. Dans toutes ces choses, frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit, nous ne sommes pas seulement du cœur, mais nous sommes plus que du cœur. Quelle bénédiction, quelle grâce. Que le Seigneur nous aide à comprendre, à aller encore plus loin. Et on retrouve cette même pensée dans les livres de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 2, et le verset 14 qui dit béni soit Dieu qui nous fait non seulement triompher en Jésus-Christ, mais qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Toujours. Voilà la question, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que nous triomphons toujours en Jésus-Christ? Littéralement, ça veut dire qu'il nous emmène toujours au triomphe, toujours à la victoire. Et ici, c'est le petit mot toujours qui nous apporte la certitude de la victoire. Toujours, c'est quelque chose qui veut dire que c'est certain, que c'est sûr qu'il va arriver. Allez là, quelle est la petite touche? Petite touche que nous pouvons ajouter à notre vie spirituelle et qui va nous aider à rester et à vivre dans la certitude de la victoire, qui va nous apporter un plus, qui va nous apporter un toujours. Et bien, ce petit plus, on le trouve dans 1 Jean 5, verset 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. C'est ça la petite touche en plus. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et quelle foi, frères et sœurs, quelle foi? Une foi comme une graine s'élever, une foi de la même qualité que le centenier romain, qui a dit au Seigneur, me dit un mot, un mot. Et tout le besoin qu'il y a, me dit un seul mot. Une foi avec la même qualité que cette femme atteinte de la perte de sang, qui a dit si je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Une foi solide. Ce n'est pas pour rien que dans la mûre du chrétien, la foi est comparée au bouclier. Et le bouclier, c'est quelque chose de solide. À l'époque, le soldat qui partait à la guerre, qui partait au combat sans le bouclier, à 99% des chances, il était déjà mort. Le bouclier est important. Et il ne suffit pas simplement d'avoir la foi. C'est bien d'avoir la foi. C'est même important d'avoir la foi. Mais il faut avoir une foi riche. Il faut avoir une foi riche. Et comment enrichir cette foi-là? Il doit tout simplement par la puissance de Christ. Par nous appuyant sur la puissance de Christ. Puisque la parole de Dieu nous dit dans le livre de Pierre qu'il nous a tout donné. Tout donné qui contribue à la vie éternelle. Et donc, avec cette foi, avec cette foi-là riche-là, que nous ne serons pas emportés à la première persécution, que nous ne serons pas emportés à la première tempête, et que nous resterons ancrés solidement dans la personne de notre Seigneur et de notre Seigneur Jésus-Christ. La quatrième certitude, c'est la certitude de la délivrance. Si j'attends plein de tempêtes et que ça souffre depuis un moment, l'une des questions que vous vous posez, c'est de dire, mais quand est-ce que cela va s'arrêter? Quand est-ce que cela va s'arrêter? La certitude de la délivrance. En Daniel, au chapitre 3, au verset 17, il a dit, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera. Non seulement il peut, mais il va le faire. Quelle confession de foi, quel courage. Ces trois hommes auraient pu, je dirais par peur, par doute, renier leur Dieu. En exil, ils étaient loin de leur pays. Et malgré la menace de mort qui planait sur leur tête, ils ont préféré rester fidèles à leur Dieu. Ils ont préféré placer leur foi dans la certitude que leur Dieu est capable de les délivrer. Et pour aller au bout de la logique, au bout de leur logique, ils étaient prêts à mourir. Ils sont dans l'église, et malheureusement remplis de critiques, ils n'ont pas eu la force, la patience d'attendre le secours, la réponse de Dieu, et qui ont préféré repartir en arrière. Que Dieu nous garde, frères et sœurs. Que Dieu nous garde en ce matin de repartir en arrière. Je vous encourage simplement à garder la foi et à être certain que notre Sauveur, notre Seigneur, en qui nous avons placé, je dirais, tout, eh bien, pourra et va nous délivrer de la fournaise ardente par laquelle des fois nous passons. Peut-être me direz-vous, mais j'attends autre chose. J'attends une guérison, j'attends une bénédiction, et je ne vois rien venir. Parce que je suis réalisé l'importance ici de la vie du mot grâce. Le Seigneur avait dit à Paul, la grâce te suffit. La grâce te suffit. Réalisons ce matin l'importance pardon, du mot grâce. La bouche de Dieu, la grâce, c'est le don gratuit pour Dieu de libérateur. Et ce libérateur, c'est Jésus, qui est venu nous racheter de sa mort sur les croix du calvaire. Et cette grâce, on la retrouve également dans l'Ancien Testament quand l'Évangile dit qu'il est venu pour apporter de bonnes nouvelles. Il est venu pour guérir le cœur brisé. Il est venu pour guérir le corps et l'âme brisée. C'est cela la grâce. La grâce, c'est aussi reconnaître que j'ai tort. La grâce, c'est aussi de demander pardon. La grâce, c'est de revenir au Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être vous allez me dire, mes frères, mais pourquoi ne me délivre-t-il pas? Pourquoi ne me délivre-t-il pas de l'oppression, de la souffrance, de la maladie? Je vous répondrai, chers frères, premièrement, nourrissez votre foi de la parole de Dieu, qui nous demande de faire confiance au Dieu et de la délivrance. Nourrissez votre foi de la parole de Dieu, qui nous demande de faire confiance au Dieu de la délivrance. Sortez de votre immobilisme. Ne restez pas sur le pied du peuple, mais entrez dans le lieu de Dieu. Souvent, nous restons sur le pied du peuple. Comme le fond du fond, nous entrons dans l'adoration, dans la louange. Nous restons sur le pied du peuple. Nous avons peur d'aller plus loin. Mais Dieu nous conduit à aller dans le lieu précis, au travers de la louange, de l'adoration, de la prière, du jeûne, de la lutte, du combat. Dieu veut que nous puissions aller plus loin. Dieu nous invite à sortir de notre immobilisme. Et puis, troisièmement, il nous demande d'accepter la volonté de Dieu et d'entrer dans une autre dimension, la dimension de la foi active et de vivre une relation différente avec notre Dieu. Une dimension où par grâce, il nous bénira, même au travers de la souffrance. Il nous bénira en Jésus-Christ, dit la Bible, de toute bénédiction spirituelle. Et matérielle également, que la grâce et la bénédiction du Sauveur nous encouragent. Et je dis, frères et sœurs, peut-être celui qui traverse ce moment de souffrance, un moment difficile, peut-être celui qui traverse la tempête. Et qui a l'impression que cette tempête, depuis qu'il se donne au Seigneur, cette tempête n'a jamais arrêté de souffler. Alors, traducteur, je vous dis, il y a la certitude de la délivrance. Et le Dieu qui a délivré les trois jeunes de la fournaise ardente, ce Dieu-là est capable. Et il va aussi vous délivrer. Parce que c'est son but. Ancrez votre vie sur la certitude de la délivrance de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ. La cinquième certitude, c'est la certitude des promesses de Dieu. La certitude des promesses de Dieu. Romains chapitre 4, verset 20 à 21. Il nous est dit d'Abraham qu'il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Quelle bénédiction de lire ces paroles-là. Quelle bénédiction. Ce verset doit être la preuve pour nous. La grandeur de l'amour de Dieu à notre égard. fait parce que Dieu nous promet d'hériter des promesses. Mais pas n'importe quelles. Dieu nous permet d'hériter des plus grandes et des plus précieuses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses promesses, pardon, dans le but de devenir semblable à Christ. Et s'il y a dans la Bible un élément fondamental qui doit nous aider et sur lequel nous pouvons nous appuyer pour vaincre le doute, eh bien, ce sont les promesses de notre Dieu. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ce qu'il a dit, il le fait. Il est le oui et l'amen. Celui qui a fait la promesse, nous dit la parole de Dieu, il est fidèle. Fidèle pour se glorifier et fidèle pour répondre. Et au sujet d'Abraham, il nous a dit qu'il ne l'a point douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il aurait pu le faire. Il aurait pu faire comme nous. Il aurait pu douter. Il aurait pu tout abandonner. Mais au contraire, il s'est fortifié dans la foi en donnant gloire à Dieu. Et voilà comment il a hérité de la promesse de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà comment il a hérité de la promesse de Dieu. Et de la plus précieuse des promesses de Dieu. Et des promesses dans la parole de Dieu, nous en avons. Nous en avons des promesses. Promesses de bonheur, promesses de paix, promesses de vie éternelle, promesses de vie abondante, promesses de salut pour celui qui est perdu, promesses du baptême du Saint-Esprit qui veut répandre sur son Église, promesses du retour de Christ. Autant de promesses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer dans notre but de prière pour garder la foi et pour garder la confiance dans notre Seigneur et dans notre Seigneur Jésus-Christ. Une sixième certitude, c'est la certitude que nous appartenons à Dieu. La certitude d'appartenir à Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est-à-dire, même si la tempête souffle, vous pouvez dire avec moi, je suis enfant de Dieu. Il y a un cœur, un cantique qu'on chante depuis quelque temps. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant de Dieu. Et cette histoire, ce matin, on a prévu de cela. Vous êtes enfant de Dieu. Même si la tempête souffle, même si la tempête souffle, vous êtes enfant de Dieu. Dans ce texte, selon l'apôtre Jean, il y a sur cette terre deux types de personnes. Deux types d'enfants. Les enfants de Dieu, les enfants du diable. Soit nous appartenons à Dieu, soit nous appartenons au diable. Mais nous ne pouvons appartenir aux deux. Donc, nous appartenons au Seigneur, il est de notre devoir de manifester les fruits de la repentance, les fruits dignes de la repentance que nous connaissons dans Galates 5 et verset 22. Et nous devons veiller également à ne pas nous laisser contaminer par l'esprit du monde et par l'esprit du diable. Parce que selon l'enseignement de cette parole, il nous a dit que nous étions auparavant. Avant notre conversion, nous étions sous l'emprise du diable. Nous étions sous la puissance du diable. Mais béni soit Dieu qui nous a délivrés, qui nous a délivrés et qui nous a permis de passer de la puissance de Satan à Dieu. Nous sommes passés de la puissance de Satan. Et j'aime bien dire que nous ne sommes pas passés de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Nous sommes passés de la puissance de Satan à Dieu. Ça veut dire que Dieu est tout puissant et qu'il est beaucoup plus puissant que le milieu de nos âmes. Nous avons la certitude d'appartenir à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes enfants de Dieu. Eh bien, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes en Christ. Autant de mots qui nous prouvent que nous appartenons au Seigneur. Alors, quand le diable viendra souffler à vos oreilles des mots, des phrases pour nous culpabiliser, nous faire douter, nous faire tomber, eh bien, vous pouvez lui dire en vous appuyant sur les certitudes de c'est la parole de Dieu. Vous pouvez lui dire en regard de moi, Satan. Je suis enfant de Dieu. En regard de moi, Satan, je suis enfant de Dieu. J'appartiens à mon Sauveur. Il est à mon Sauveur. Et qui n'a plus aucun pouvoir sur moi. Et puis, la dernière des certitudes que je voulais partager avec vous, frères et sœurs, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, c'est la certitude du salut. La certitude du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous revoyez un peu l'image où le tempête souffle, où Jésus est à la poupe du bateau en train de dormir, et les disciples sont ballottés d'un côté et de l'autre. Et là, en ce moment, ils commencent à avoir peur. Et ils voient la fin proche. Et ils se mettent à crier, « Seigneur, mais nous périssons. Pourquoi tu ne t'inquiètes pas? Nous périssons. » Il fait ce temps. Au milieu de la tempête, nous ne périrons pas. Nous ne périrons pas. Même au milieu de la tempête, l'Église ne périra pas. Même si elle est attaquée de toutes parts, elle ne périra pas. Vous voyez les différentes églises de l'Apocalypse. Elles ont été attaquées de toutes parts. Elles ont été attaquées d'une manière frontale. Elles ont été attaquées d'une manière sournoise. Mais Dieu a veillé sur son Église. Même s'il l'a repris avec du feu par moment. Mais c'était pour que l'Église reste et pour que l'Église reste fidèle à son Dieu. Et ce matin, nous avons été encouragés par le deuxième don spirituel à rester attaché au Sauveur et au Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous dis, frères et sœurs, que même si la tempête souffle au milieu de nous, nous avons la certitude du salut. Notre Dieu nous gardera fidèles en Jésus-Christ. Nous ne périrons pas, car nous avons avec nous celui qui nous tient debout. Nous avons avec nous, celui qui fera la face à la tempête. Nous avons avec nous le Sauveur et le Seigneur Jésus-Christ. Il nous invite à prendre exemple sur lui. Je vous invite à prendre exemple pour lui. Regardez la différence entre les disciples et Jésus. Quand la tempête souffle, quand le doute entre dans vos vies, dans vos cœurs, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes comme les disciples. Nous voyons la mort. Nous voyons la détresse. Nous voyons que nous sommes en train de crier. Et nous nous inquiétons. Nous crions. Nous crions par peur. Alors que le Seigneur nous dit, au milieu de la tempête, comme nous l'avons chanté, il est resté tranquille. Il est resté tranquille. Alors, si la tempête souffle, Seigneur, restons tranquilles. Restons avec nous. Avec nous, nous avons le Seigneur. Nous ne périrons pas si la tempête souffle. Pourquoi? Parce que notre salut. Notre salut porte nous. Et notre salut porte le nom du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur. Actes chapitre 4 et verset 12, il nous a dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Car il n'y a sur la terre aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés. En conclusion, je voudrais simplement vous dire, frères et sœurs, apprenons donc à vivre notre vie spirituelle avec les certitudes de la parole attachées à nos cœurs. Car c'est ainsi que nous continuerons de grandir dans notre foi. C'est ainsi que nous continuerons de servir. C'est ainsi que nous continuerons de résister à l'ennemi. Et c'est ainsi que nous aurons la capacité, comme le Sauveur et le Seigneur Jésus, de dire à la tempête, tais-toi. Tais-toi. Et le texte d'introduction que nous avons lu nous rappelle deux vérités fondamentales. La première vérité, c'est que le but de Dieu, ce n'est pas notre confort. Le but du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas notre confort. Mais le but du Seigneur, c'est notre croissance par l'apprentissage de la confiance en Dieu. Le but du Seigneur, ce n'est pas notre confort, mais c'est notre croissance par l'apprentissage de la confiance en Dieu. Et je veux vous dire, nous qui avons choisi de suivre Jésus-Christ, je ne sais pas si vous en êtes conscients, frères et sœurs,
Mais quand nous avons choisi de suivre Jésus-Christ, nous avons pris un risque. Nous avons pris un risque. Suivre Jésus-Christ, c'est risquer la tempête. Suivre Jésus-Christ, c'est risquer la tempête. Il aurait pu rester de l'autre côté. Il aurait pu rester de l'autre bord. Mais il aurait dû traverser. Traverser. Et nous avons traversé. Suivre Jésus, c'est prendre le risque de vivre la tempête. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Parce que si nous restons aux côtés du Seigneur, il vient avec nous et il nous sauvera dans la tempête. Et puis la deuxième vérité fondamentale que ce texte nous apprend, c'est que suivre Jésus-Christ, c'est reconnaître sa puissance. Reconnaître sa puissance. Que la tempête vienne à souffler parce qu'elle vient du diable pour nous faire souffler. Ou que la tempête vienne à souffler parce qu'elle est tolérée par Dieu pour nous apprendre certaines choses. Sachant que le Seigneur est tout puissant et qu'il est digne de confiance. Et nous le voyons. Nous le voyons, les disciples l'ont expérimenté. Le vent s'est arrêté et la mer s'est calmée. Le vent s'est arrêté et la mer s'est calmée. Et c'est de ça, le Seigneur Jésus-Christ nous appelle aussi à plusieurs fois comme nous, à rester tranquille, à rester tranquille, sans laisser le doute prendre la place, sans nous laisser emporter à tout vent de doctrine, à rester tranquille. C'est les yeux sur notre Seigneur. Et nous, le regard sur Jésus, le chef de notre foi. Que son nom soit béni. Nous allons terminer par la lecture de notre dernier texte. C'est pour moi le fait qui résume toutes les certitudes que nous pouvons avoir de Jésus-Christ. C'est le texte de Romains, au chapitre 8. Le verset 38 et 39. Romains chapitre 8, verset 38 et 39. Et je vous invite à vous lever pour le lire avec moi, frères et sœurs. Je tiens compte de ce que mon frère a dit. Je sais que parmi nous, il y a des gens, des hommes et des femmes qui peuvent pas se lever. Alors, c'est vrai que nos frères et nos sœurs ne peuvent pas se lever pour l'instant, mais je sais que le cœur, lève également avec nous. Et en tant qu'Église de Dieu, nous avons dû faire du bien à confesser cette certitude de la parole de Dieu que vous trouvez dans le livre de Romains, au chapitre 8 et au verset 38 et 39. Je ne sais pas si mon frère peut nous le projeter. On a 8, verset 38 et 39. Afin que nous puissions le lire tous ensemble. Et que nous puissions aller dans l'unité, que nous puissions rester dans l'unité. Je crois que plus que jamais, dans ce temps de la fin, où le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt, le but est bien de suivre mourant autour de notre maître, de former un autour de notre maître, afin que la grâce de Dieu puisse se manifester, que nous puissions continuer à vivre de grandes choses. Alors, on va le lire tous ensemble, frères et sœurs. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et son nom sera béni ce matin. Vous avez souvent prié pour nous, frères et sœurs. Avant que le groupe monte, si vous voulez chanter. Pendant que l'Église reste debout, j'ai invité Thierry, j'ai invité également Freddy, les anciens de l'Église. Je sais que vous priez pour nous. Mais ce matin, c'est nous qui allons prier pour vous. Nous allons demander la bénédiction de Dieu sur l'Église. Je sais qu'au milieu de nous, certains souffrent. Je sais qu'au milieu de nous, certains traversent des temps de tempête. Certains n'ont pas de travail. Certains sont malades. Certains traversent des temps difficiles, peut-être des épreuves familiales. Certains traversent le deuil également. Et nous voulons vous dire simplement que nous, les chrétiens, nous sommes à votre service. Nous sommes là pour servir l'Église. Nous sommes là pour vous servir. Et nous sommes là également pour transmettre, pour vous transmettre dans le monde.